Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Schiste 94.3. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Ce soir, nous recevons Myriam Lévesque, diplômée de la maîtrise en histoire de l'Université Laval, responsable des communications et de la promotion chez Septentrion et présidente du conseil d'administration des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Bonsoir Myriam, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. On vient tout juste de dévoiler la dernière édition là, des Rendez-vous d'Histoire, donc je suis très enthousiaste.
Beaucoup de frénésie, j'en suis certaine.
Ah oui, absolument.
À l'animation, vous êtes en compagnie de Rachel Archambault, candidate au doctorat en archéologie et grande fan des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Et ça tombe bien, donc, c'est le sujet de l'émission de ce soir, alors que nous discuterons de cette 7e édition qui aura lieu du 9 au 11 avril, donc vraiment dans quelques jours seulement. Cette année, plusieurs changements marquent cette édition 2025, notamment le fait qu'il s'agisse d'une édition en partenariat avec le Salon du Livre de Québec. Myriam, comment s'est développée en fait cette nouvelle collaboration-là avec le Salon du Livre?
Oui, bien en fait, dans les années précédentes, en 2019 et en 2023, parce que bon, il y a eu une petite pause avec la pandémie, là, on n'a pas pu faire d'édition en présence, mais en 2019 et en 2003, on a eu un Salon du Livre de l'Histoire au Rendez-vous.
Oui, je m'en rappelle.
En fait, on avait juste pour remettre en contexte les Rendez-vous, on avait un festival qui était présenté au mois d'août. C'est la deuxième semaine d'août habituellement pendant le week-end et c'était présenté là, dans divers lieux partenaires du Vieux-Québec. Il y avait Musée de la Civilisation, on avait l'eau des palais, les Augustines, etc. Et à ces deux éditions-là, on avait un Salon du Livre d'Histoire, puis ça a vraiment été... c'était très populaire, les gens aimaient beaucoup. Puis, on a eu une petite année de transition, en fait, l'année dernière avec les Rendez-vous. Il y a eu beaucoup de remises en question de la formule du festival. Puis, c'est ça. Moi, j'ai pris la présidence du CA à ce moment-là. Il y a aussi là, mon collègue Gilles Hermand, qui est directeur général intérimaire des Rendez-vous, qui travaille aussi dans le milieu du livre. Et les deux étant dans l'univers du livre en ce moment, ben on s'est dit pourquoi pas croiser un peu l'idée du Salon du Livre d'Histoire qui fonctionnait très bien notre bagage en fait dans le milieu du livre, puis approcher peut-être le Salon du Livre de Québec pour voir un intérêt à être partenaire de l'événement. On s'entend que la plupart des conférenciers, conférencières des Rendez-vous sont des auteurs, des autrices.
Absolument.
Ont des contributions en histoire, ont des contributions dans des revues culturelles aussi, ce qui fait partie quand même là, des gens qui participent au Salon du Livre en général. Donc, on s'est dit pourquoi pas croiser ces milieux-là puis offrir une programmation des Rendez-vous dans un Salon du Livre. Puis, le Salon nous a accueillis à bras ouverts.
Oh,
c'est vraiment une équipe formidable, très dynamique. On les aime beaucoup, l'équipe du Salon du Livre de Québec. Donc, ils nous ont accueillis puis ils nous ont dit pourquoi pas. C'est un peu là, le pari qu'on s'est donné de présenter une programmation en histoire pour le Salon du Livre. Donc, d'avoir vraiment notre programme à nous, les Rendez-vous d'Histoire de Québec, mais de le présenter en partenariat avec le Salon.
Puis aussi, on s'entend que d'aller avec le Salon du Livre, ça vous permet d'aller chercher peut-être des gens qui, se disaient peut-être pas assez fans d'histoire pour aller au rendez-vous, mais qui ont un intérêt, puis là, ils vont passer, ils vont aller au Salon du Livre, vont voir, il y a un entretien, il y a quelque chose. Ça vient toucher un autre public aussi, j'imagine.
Ben exactement, puis il y en a tellement des livres en histoire qui se publient à chaque année.
Oui, et, vraiment.
Honnêtement, ils n'ont pas une énorme visibilité dans toutes les programmations des Salons du Livre au Québec. C'est difficile des fois là, de je peux comprendre.
Lot,
exactement. C'est avec des gros noms de la littérature. Des fois, je peux comprendre que des fois, l'histoire semble être plus nichée. L'histoire semble toucher moins de gens. Mais en fait, ce que les Rendez-vous ont montré dans les dernières années, c'est qu'il y en a un public pour l'histoire.
Absolument.
Il faut juste le mettre de l'avant. Donc, c'était un peu ça aussi là, qu'on voulait montrer au Salon. C'est de dire, voyez, il y en a beaucoup des gens qui aiment ça, l'histoire, puis qui viennent aux conférences en histoire. Donc, c'est un peu ça aussi. Là.
Oui, et que l'histoire est accessible. Donc, les gens aussi qui peuvent se dire, c'est intéressant, je pensais pas trouver mon compte dans ces conférences-là. Je pensais pas qu'on aimait autant ça, puis de montrer justement que l'histoire, c'est actuel, c'est pas poussiéreux, c'est dynamique,
accessible. Exactement, puis ça pique la curiosité. Puis justement, de faire affaire avec le Salon, ça nous offre aussi, justement, comme tu le mentionnais, une toute autre visibilité là, à grande échelle. T'sais, les Rendez-vous, ça allait quand même bien. T'sais, les dernières éditions, on avait un bon public. Je pense qu'on a un bassin de public qui reviennent d'année en année, qui sont vraiment fidèles. Puis pour ça, on est très, très privilégiés. Mais quand même, d'arriver sur la map du Salon du Livre de Québec,
c'est gros, là.
Énorme.
Oui, oui.
Là, c'est une autre aventure. Puis j'ai hâte de voir les retombées.
Absolument. Puis c'est vrai, au rendez-vous d'histoire, pour être une personne qui allait à chaque année, c'est un peu des retrouvailles avec des gens que moi, j'ai pas nécessairement l'occasion de voir au fil de l'année. Donc, c'est un peu des retrouvailles avec tout le monde de « Hey, on se voit au rendez-vous d'histoire. » Puis bon. Puis tu as mentionné, donc, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Mm-hmm. Depuis le début des rendez-vous, donc on a 7 ans, là, il y a eu énormément de modifications au niveau des conférences, mais surtout dans les dernières années, là, comme tu as mentionné. Bon, la COVID n'a pas aidé, mais également, l'année passée, c'était plutôt, au lieu d'être au mois d'août, des conférences étalées tout au long de l'année. Et là, donc, le changement du Salon du livre que tu as expliqué. Qu'est-ce qui a motivé, en fait, ces changements-là? Tu sais, d'avoir essayé des conférences au fil de l'année, finalement, dire c'est le Salon du livre qu'on y va. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon des rendez-vous? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la formule de cette année reste ou on va avoir une modification à chaque année? Donc, avez-vous pensé à ça? J'imagine que oui.
C'est sûr qu'on souhaite avoir une formule qui puisse se maintenir, justement. Là. Je pense que les... Habituellement, les gens dans la vie aiment ça quand c'est avoir des habitudes. Oui. Si on peut quand même conserver une habitude, on va le faire. Ce qu'on avait fait dans les 6 dernières éditions, justement, les rendez-vous, c'est né en il y a eu une proto-édition en 2017. Oui. Puis ensuite, à partir de 2018, c'était vraiment le festival qui était présenté en nous. À la base, c'était 3 jours. À la fin, on en avait 5.
Oui, c'était rendu une semaine. Là.
Exactement. Puis tu sais, même pendant la pandémie, on a réussi quand même à présenter un festival en ligne.
Oui, je me rappelle bien.
Vraiment, là, c'est ça. Les rendez-vous ont persisté avec la formule du festival d'une semaine pendant 6 éditions. Il y a eu plusieurs remises en question de la formule. Ça faisait un petit bout déjà qu'on se questionnait sur la date. Parfois, c'était pas idéal, là, le moment de l'année pour les rendez-vous. Et côté financement, les rendez-vous ont toujours tombé un peu entre deux cases. C'est difficile d'avoir du soutien au niveau de la ville, au niveau du provincial, au niveau du Canada. C'est vraiment difficile. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui était mise dans le financement, puis pour les retombées des fois qui n'en valait pas nécessairement la peine, puis c'était difficile. Donc, après la 6e édition, on s'est questionné, en fait, justement, un peu sur l'avenir des rendez-vous. Puis l'année passée, bien, on l'a pris, justement, on a pris l'année pour penser la réorganisation du festival, pour se structurer. Puis on avait une superbe collaboration avec les archives de la Ville de Québec, qui nous ont confié un mandat d'organiser un cycle de conférences pour souligner leur 100e anniversaire. Donc, on était présents quand même, justement, à travers ces conférences-là, parce que les rendez-vous, c'est pas seulement le festival, c'est un organisme sans but lucratif qui est dédié vraiment à la vulgarisation de l'histoire, à la diffusion de l'histoire du Québec. Donc, pour nous, c'est important quand même de rester visible, de rester vivant, tout en prenant une petite pause, prenant un recul, puis en se demandant, ben, où on en est, est-ce qu'on a besoin de se renouveler, est-ce que les rendez-vous c'est terminé, tu sais, si c'est difficile en ce moment, d'édition en édition, où on en est. Puis finalement, on a décidé, là, d'approcher le salon, puis ben, ça a été cette formule-là qui finalement en est sortie, puis on est très, très contents. Parce que ça reste, c'est une nouvelle formule, mais ça reste aussi dans nos valeurs, ça reste...
On reste
dans l'essence des rendez-vous. Là.
On retrouve les rendez-vous là-dedans beaucoup.
Exactement. C'est certain que cette année, c'est une plus petite édition. Quand on pense aux gros projets qu'on a présentés dans les éditions précédentes, le cabaret Alice Robbie, qui avait été présenté en 2023.
C'était une grosse année 2023. Là.
Exactement. Puis je pense, en tout cas, si on parle de l'avenir des rendez-vous, moi, ce que je nous souhaite, c'est qu'on revienne dans ces projets de grandeur. Là. Il faut une année où on est un petit peu plus tranquille pour se...
C'est essentiel.
C'est important. Puis je pense quand même on a une vingtaine d'activités. Là.
La programmation est très riche.
Les trois jours sont très bien chargés.
Oui.
C'est ça. Je pense quand même que ça fait partie aussi des rendez-vous d'avoir des gros projets où l'histoire est là, mais il y a aussi beaucoup de festivités puis de créativité. Je pense qu'on avait une belle équipe pour ça, puis on a encore une équipe qui est très créative. Mais donc, c'est ça, là, je pense, pour l'avenir.
Génial. Puis je pense que c'est vraiment sain, en fait, pour une organisation de se poser des questions de où on en est? Est-ce que le public est encore là? Qu'est-ce que le public veut? Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on s'entend que c'est énormément de travail. Oui. Je pense juste à la programmation 2023. Là, il y avait tellement d'activités. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc là, avec le Salon du livre aussi, ça reste beaucoup de travail, bien sûr. Mm-hmm. Mais vous pouvez vous appuyer sur une organisation qui est déjà bien rodée, juste au niveau de le lieu, juste au niveau de juste l'infrastructure des rendez-vous. Ça l'aide d'être avec le salon. Là, ça vous permet de mettre votre énergie sur la programmation.
Oui, exactement.
Génial. Donc, avant de poursuivre avec cette fameuse programmation des rendez-vous d'Histoire de Québec, on va prendre une petite pause musicale avec le nouveau single du groupe québécois Perséide, intitulé « Qu'est-ce que tu fais là? » Donc, bonne écoute.
Thank you.
êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission en compagnie de Myriam Lévesque, présidente du conseil d'administration des Rendez-vous d'histoire de Québec, alors que nous discutons de cette 7e édition des Rendez-vous qui auront lieu donc en collaboration avec le Salon du livre de Québec du 9 au 11 avril prochain. Parlons maintenant programmation. Un seul mot me vient à l'esprit, vraiment, c'est wow! On y retrouve tellement une superbe, en fait, diversité de sujets. On passe de la politique québécoise à l'histoire des femmes, en passant par les enjeux autochtones et l'histoire militaire, donc vraiment pour tous les goûts. Quand vous avez commencé à rêver et à dessiner cette programmation-là, qu'est-ce que vous aviez en tête? Qu'est-ce que vous vouliez qu'il ressorte de cette édition?
La première chose, en fait, qui est importante pour nous, parce que dans les salons du livre, là, il faut savoir, souvent les programmations reprennent seulement les livres qui sont parus dans l'année même. Mm-hmm. Donc, je comprends, il y a un souci d'actualité de vouloir rester au fait là, des nouveaux livres. Mm-hmm. Il y en a tellement, on est chanceux au Québec, on a une production énorme de livres, ce qui est fantastique. Pour nous, c'est important de ne pas suivre cette règle-là et de se permettre un peu là, d'aller voir de la production en histoire dans les dernières années aussi pour vraiment mettre de l'avant, en fait, tous les livres, tous les auteurs là, qui ont fait paraître récemment ou pas des livres en histoire. Mm-hmm. Pour les rendez-vous, c'était ça aussi. Là, on restait dans des sujets qui sont de la nouveauté, mais quand même là, qui c'est ça, de pas se limiter aux productions en histoire de la dernière année. Tout après, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel aux éditeurs. Qui on sait publie de l'histoire, bon, Urtubise, Remue Ménage, les Presses de l'Université Laval, Septentrion, Boréal. Donc, on a vraiment fait appel aux éditeurs pour voir, ben voici, on a les rendez-vous qui s'en viennent. Êtes-vous intéressés peut-être à nous soumettre des auteurs, des autrices? Puis, on a eu une réponse très positive.
Ah, ça, c'est bien.
Vraiment, là, les maisons d'édition ont adoré le concept et nous ont soumis plein d'idées.
Trop d'idées, peut-être?
Ah oui, définitivement, on n'a pas manqué d'idées de conférences. En fait, c'est ça, on a eu une vague de conférences, de conférenciers, d'idées, et on a fait une sélection avec ça. On avait aussi, c'est certain, à chaque année, en fait, on a toujours des partenaires là, qui soutiennent les rendez-vous depuis le début. La Fondation Lionel Groulx, entre autres, sont des partenaires vraiment initiaux des rendez-vous. Cette année, on collabore aussi avec la Fondation René Lévesque, Commission pour la mémoire franco-québécoise, c'est aussi des partenaires de longue date. Donc, avec ces partenaires-là, on a présenté aussi des activités. Donc, c'était pas directement avec les éditeurs, mais c'était aussi des activités là, qui étaient liées avec des auteurs et des autrices qui avaient publié dans les dernières années. C'est un peu comme ça qu'on a construit la programmation. On a essayé de faire, de présenter quelque chose de cohérent, de faire des blocs un peu là avec des thématiques, tout en essayant d'être très diversifié aussi dans ce qu'on présentait. Puis un élément qui caractérise nos programmations, puis ça on en est fiers, c'est l'aspect paritaire.
Oui.
Nous en fait on à chaque année, à chaque programmation, on tente le plus possible d'avoir une programmation paritaire. Puis cette année on est pile poil dans la parité, on est très heureux. C'est aussi là un élément qui est important pour nous côté programmation.
Parce que la programmation donc offre des conférences, des tables rondes, des entretiens. En fait, c'est vraiment des opportunités de proximité avec des auteurs, autrices, historiens, chercheurs, journalistes, politologues, puis un accès à des sujets, des enjeux qui sont profondément actuels. Puis j'ai envie de commencer un peu en discutant des tables rondes qui seront à la scène Radio-Canada. Donc d'ailleurs, mercredi, donc la première journée, c'est ça, des rendez-vous.
Exact.
Donc de 13h à 14h, la CEFAN, donc la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, présente une table ronde portant sur l'artiste multidisciplinaire Fred Pellerin, alors qu'on va avoir Martine Roberge, qui est professeure d'ethnologie ici à l'Université Laval, et la langagière Catherine Lemay, qui vont proposer une excursion au cœur de l'imaginaire de Fred Pellerin. À qui s'adresse cette table ronde? Est-ce qu'on doit être un fan fini de Fred Pellerin ou quelqu'un qui est simplement curieux d'en savoir plus sur son travail?
Tout d'abord, je tiens à mentionner qu'on a bien essayé d'avoir Fred Pellerin pour la table ronde.
J'en doute pas.
On a bien essayé, mais il était pas disponible, malheureusement. C'est le temps des sucres. Alors, pour Fred Pellerin, c'est un grand moment. On le comprend, mais bon.
On le comprend.
Je tiens à le mentionner quand même. On n'est pas passé à côté de l'opportunité.
Je pense pas qu'on aurait cru ça, mais je comprends la déception aussi.
Alors, la table ronde, en fait, c'est ça. C'est issu d'un ouvrage que Martine Roberge et Catherine Lemay ont publié auprès de l'Université Laval. Et définitivement, ça s'adresse à tout public. Là. C'est certain que les fans de Près de Pèlerin
vont
s'y retrouver, certainement. Mais en fait, c'est ça, là, c'est qu'elles explorent l'œuvre de Fred Pellerin, l'art de Fred Pellerin qu'elles appellent l'art pèlerinesque. Elles vont vraiment explorer en fait sa manière de raconter son imaginaire, parler vraiment de ses textes, de ses contes et tout ça. Donc, vraiment pour plonger dans l'imaginaire de Fred Pellerin, ça va être une superbe table ronde. Puis c'est ça, juste pour préciser, les rendez-vous, en fait, vont présenter leur programmation dans deux lieux. Donc, la scène Radio-Canada du Salon du livre de Québec, donc, dont notamment la table ronde de Martine Roberge et Catherine Lemay. Mais il va avoir aussi une salle de conférence qui va être au Centre des congrès. Et dans cette salle de conférence-là, ben, c'est là qu'il va avoir la plupart des activités. C'est une salle qui est à l'extérieur du Salon du livre, mais tout près, là, il y a un petit 3-4 minutes de marche à faire au sein du Centre des congrès. Mais c'est dans cette salle-là, en fait, de conférence qu'il va avoir la plupart des activités. Oui, OK.
Jeudi, les gens ont la chance aussi d'assister à une autre table ronde, cette fois sur René Lévesque, en compagnie de Louise Beaudoin, Jean-Charles Panton et Martine Tremblay, des grands noms. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement fort, en fait, des rendez-vous, qui est quand même un événement très marquant?
Ah oui, on est extrêmement privilégié de présenter cette table ronde là. Semblerait que, en tout cas, on parlait déjà un peu là de la table ronde avec l'équipe du salon. Puis avant même qu'on ait dévoilé la programmation, on en parlait déjà au sein du CA du salon là. Donc je pense que c'est un gros moment. Ça va être un beau moment des rendez-vous au Salon du livre de Québec. La table ronde est présentée avec la Fondation René Lévesque. Donc en fait, Louise Beaudoin et Martine Tremblay là, et Jean-Charles Panton en font partie. Je tiens à les présenter quand
bien
même.
Sûr,
là.
Bien sûr.
Louise Beaudoin, en fait, elle va publier ses mémoires, si c'est pas déjà fait, là, tout début d'avril, au Boréal. Louise Beaudoin, en fait, elle a été directrice du cabinet du ministère des Affaires intergouvernementales du Québec, déléguée générale du Québec à Paris. Elle a été élue députée du Parti québécois en 1994, réélue en 1998. Elle a occupé pendant ses deux mandats les fonctions de ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la Culture et des Communications, ministre de la Charte de langue française, des Relations internationales. Donc, vraiment...
un CV très, très complet, là.
Très gros bagage. Martine Tremblay, quant à elle, elle a été directrice du cabinet des premiers ministres René Lévesque et Pierre-Marc Johnson en 84-85, sous-ministre au ministère de la Culture et des Communications et aux Relations internationales. Donc, vraiment, deux femmes qui vont pouvoir nous parler des coulisses du Parti québécois.
Très riche, là.
Exactement, qui vont pouvoir nous parler de leur expérience. Et qui vont dialoguer justement avec Jean-Charles Panton, qui est historien. Jean-Charles Panton, il a publié 3 ouvrages aux éditions Septentrion sur le gouvernement de René Lévesque. Donc, du début, en fait, le tome 1, c'était vraiment les débuts du Parti québécois jusqu'à l'élection, la première élection. Ensuite de ça, le deuxième ouvrage, c'était le premier mandat du Parti québécois. Puis son dernier, qui vient tout juste de paraître, le tome 3, c'est de la deuxième élection de René Lévesque au pouvoir jusqu'à sa démission, en fait, un moment de l'histoire dont on ne se souvient pas énormément, là, qui n'est pas vraiment passé à l'histoire, mais René Lévesque a démissionné, en fait, là, de son poste. Jean-Charles Panton, en fait, qui va être présent aussi pour avoir un autre regard là, sur la question. Donc, les trois vont vraiment discuter de l'héritage de René Lévesque, de leur expérience aussi pour ces deux femmes-là là, au sein du parti. Je pense que ça va être très, très riche en discussion. Donc, c'est le jeudi 10 avril à 13h au Salon du livre.
En effet, puis avec les femmes qui offrent aussi un regard sur la politique dans les années 80-90 en tant que femmes aussi, ça va être assurément fascinant.
Définitivement.
Et finalement, vendredi, donc, la programmation propose un entretien de Biz et Closière à La Rochelle, intitulé « Nos géantes, nos géants ». Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cet entretien-là? Qu'est-ce que c'est que ça, « Nos géantes, nos géants »?
Nos géantes, nos géants, en fait, c'est basé sur un projet de la Fondation Lionel Groulx. le projet Nos Géants. Ils en sont à la 4e saison qui est diffusée sur les ondes. À mon souvenir, c'est Télé-Québec. Si je me trompe, vous me corrigerez.
Je crois que oui.
Je crois
j'ai les affiches dans mon bureau de prof, mais j'avoue que j'ai pas écouté l'émission, mais j'ai les affiches. Je crois que c'est Télé-Québec.
C'est vraiment un beau concept. En
oui,
fait, ils revisitent là, des figures, des personnages marquants de l'histoire du Québec. Et ils le font avec non seulement des historiens, mais aussi plein de gens du milieu des arts, de la culture, puis ils amènent ces gens-là à présenter un personnage historique au Québec. Donc moi, je trouve ça formidable côté vulgarisation de l'histoire.
Absolument, très accessible.
Ah oui, vraiment. Et qu'il y ait autant de monde qui participe au projet, là, c'est formidable. Ça montre que l'histoire, c'est intéressant.
C'est partout.
Oui, exactement. Alors, il y a Nos Géantes. Nos Géants, en fait, c'est un livre qui découle de ce gros projet-là de la Fondation Lionel Groulx. Le livre a été publié aux éditions de La Bagnole, qui est une maison d'édition jeunesse. En fait, Claudia Larochelle et Biz, il y a des illustrations de Benoît Tardif, ils reprennent en fait 22 personnages. C'est des personnages qui ont milité, qui ont joué un rôle marquant dans la défense et la valorisation du français à travers l'histoire du Québec. Donc, on peut parler, par exemple, de Samuel de Champlain, Antoine Labelle, Calissa Lavallée, Dorimène Desjardins, Marie Lacoste, Guérin Lajoie, Judith Jasmin, Mira Crie, etc., etc. Donc, c'est vraiment des personnages là, marquants de notre histoire. Un roman illustré, un livre illustré, pardon, qui est super. C'est sorti en 2024. Et dans la table ronde, en fait, Claudia Larochelle et Biz vont s'entretenir avec Julie Collin, qui est libraire à la librairie La Liberté à Québec, et vont parler des coulisses, en fait, du livre, un peu leur démarche à eux, leur rapport à l'histoire, leur rapport à ces figures-là, etc. Donc, ça devrait être très intéressant.
Très intéressant aussi. On fait comme tout le reste de la programmation, vraiment. C'est maintenant le temps d'une petite pause publicitaire, mais avant, écoutons une seconde pièce musicale. Cette fois, on écoute Une autre vie de Evelyne Brochu. Bonne écoute.
Come
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire en compagnie de Myriam Lévesque des Rendez-vous d'Histoire de Québec et de Rachel à l'animation. Jason, coup de cœur, la programmation. J'avais envie un peu qu'on se lance la balle avec nos, oui. Nos coups de cœur personnels. Ça n'a pas été une tâche facile de choisir parmi la vaste programmation. Mais j'ai eu vraiment, j'ai vu le nom apparaître. Je fais, ce livre-là est vraiment intéressant. C'est l'entretien avec André Lévesque, qui est autrice du livre « Les filles de Jeanne », qui est un ouvrage qui touche, touchant, fait qui retrace le destin d'une lignée de femmes de 1656 à 1915. Un livre que j'ai commencé et que j'apprécie énormément, que je recommande fortement, en fait, à ceux qui ont envie de s'immiscer dans le quotidien de ces femmes paysannes, qu'on pourrait dire ordinaires, qui n'ont pas laissé énormément de textes derrière eux, mais suffisamment donc de documents d'archives pour permettre à André Lévesque de retracer leur histoire, des femmes qui ont façonné à leur manière l'histoire du Québec. Donc, cet entretien qui est animé par Julie Franqueur, diplômée de l'Université Laval.
Qui est doctorante, oui, à l'Université Laval.
Qui aura lieu donc le jeudi après-midi. Donc, l'entretien avec André Lévesque du livre « Les filles de Jeanne » que je vous recommande fortement. Donc, c'est mon premier coup de cœur. Myriam, à toi.
Oui, alors, un coup de cœur de mon côté, ben tu le sais, là, moi, j'ai travaillé en histoire autochtone au sein de ma maîtrise. Alors, l'une des activités qu'on présente, c'est un entretien avec Paul Dionne et Conrad Sioui. En fait, ça va être animé par Isabelle Dion de la librairie Anénorac. L'entretien s'appelle « Faire avancer les droits des Autochtones au Québec ». Je présente les deux conférenciers. Là, Conrad Sioui, c'est un homme politique Huron-Wendat. Il a été grand chef de la nation Huron-Wendat de 2008 à 2020, grand chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador de 1985 à 1992 et porte-parole officielle nationale concernant les enjeux de la réforme constitutionnelle entre 1984-1994. Paul Dionne, en fait, il a été avocat pour les Premières Nations et les Inuits. Lui a pratiqué toute sa vie en droit autochtone. À une époque où le droit des Autochtones, c'était pas vraiment...
Autant discuté là,
on n'en parlait pas bien, puis... Ah oui, les Autochtones ont tu sais, quel genre de droit, etc. Mm-hmm. Lui, il est arrivé, en fait, juste après la Convention de la baie James.
Okay.
Donc, il a vraiment travaillé à l'application des mesures, des politiques de la Convention de la baie James au Nunavik, entre autres.
Un gros dossier, là, dans l'histoire
du
Québec. Un
très gros dossier. Oui. Et par la suite, là, il a représenté diverses causes autochtones au Québec. C'est une personnalité... très apprécié de plusieurs chefs là, des Premières Nations. Vraiment, ça a été un allié, je pense, pour les plusieurs causes autochtones. Alors, c'est deux amis aussi, là, Conrad Sioui et Paul Dionne.
Ça fait une belle dynamique, là.
Exactement. Donc, en fait, c'est ça. Paul Dionne a publié ses mémoires aux éditions Septentrion ce printemps, là. Ça s'appelle Portage, découverte en pays autochtone. Et Conrad Sioui a également publié ses mémoires aux éditions de l'Homme. La dernière saison, la saison passée, donc en automne. Et Conrad Sioui fait la préface du livre de Paul Dionne. Okay. Et donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas les mettre ensemble puis vraiment là, les laisser discuter de leur parcours, de peut-être des causes qui les ont marquées aussi. Mm-hmm. Donc, je pense que ça va être une discussion qui va être bien, bien pertinente, puis d'actualité aussi. Donc, oui, c'est ça. On a approché Isabelle Dion, là, qui est libraire chez Anénorac, pour faire pour animer la discussion entre les deux. Donc, c'est le jeudi 10 avril à 15h30 et c'est présenté dans la salle des rendez-vous là, au Centre des congrès.
Au Centre des congrès. À mettre à votre calendrier, assurément. En fait, tout ce qu'on dit, mettez ça dans votre calendrier.
Oui, puis je mentionne, là, tout est disponible au rvhqc.com.
Oui.
Si vous voulez avoir tous les détails de la programmation, rvhqc.com.
Et allez voir la page Facebook aussi.
Oui,
il y a des nouvelles qui sortent, donc ça va être à suivre. On fait sur tous les réseaux sociaux, Instagram aussi.
Oui, on est Instagram. Un peu moins présent sur Instagram, mais infolettre et Facebook, c'est là où on est les plus actifs.
Absolument. Puis vous donnez quand même des nouvelles un peu à longueur d'année là, sur l'infolettre, mais pas trop, donc n'ayez pas peur.
Non, une fois par mois.
C'est ça, c'est pas non plus du spam.
Non.
Second coup de cœur pour moi, conférence de Webster. On ne peut pas ne pas en parler. C'est un habitué des rendez-vous d'histoire. C'est quand même une figure extrêmement importante dans l'histoire au Québec actuellement, qui va nous présenter une conférence portant sur Charlotte, qui est une esclave de l'Afrique de l'Ouest, qui a joué un rôle, en fait, dans la fin de l'esclavage au Québec au début du 19e siècle. Mmh. Je suis vraiment très... ça a touché ma curiosité beaucoup. J'imagine qu'on peut s'attendre là, à une conférence qui est touchante et éloquente à l'image, en fait, des interventions de Webster. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus sur cette conférence. Là. Moi, je suis vraiment très, très curieuse.
C'est ça. En fait, Webster va publier à la fin du mois de mars le livre « Charlotte et la fin de l'esclavage au Québec ». Si vous connaissez un peu Webster, vous savez qu'il a publié « Le grain de sable » en 2019. Alors, ça va être un peu sous le même format.
Okay.
Mais là, il va parler de Charlotte. En fait, c'est Charlotte Trim. C'était justement une femme asservie au Québec. Et son histoire, en fait, c'est qu'elle s'est enfuie à un moment donné dans son parcours. Et elle a été amenée en cour pour s'être enfuie d'où elle était prise. Et le juge, il me semble que c'est le juge Cook de mémoire, le juge s'est rendu compte qu'au Québec, il n'y avait pas d'assises légales à l'esclavage. Et donc, il ne pouvait pas l'obliger à revenir, à retourner où elle était réduite à l'esclavage parce qu'il n'y avait pas d'assises légales. Donc, elle pouvait tout simplement partir.
Une petite faille pour le mieux.
Ça a été un esclavage de coutume plus qu'un esclavage légal. Et donc, l'affaire de Charlotte Trim, ça a amené fin de l'esclavage au Québec parce que graduellement, les gens sont partis.
C'est ça, exactement.
Exactement. C'est vraiment ça. Donc, Webster le raconte si bien. Je recommande vraiment.
Très touchant, très stimulant comme lecture.
Absolument. Puis c'est ça, son livre va sortir aussi là, à la fin mars. Puis c'est un peu sous le même, c'est ça, le même format que Le grain de sable. C'est vraiment, c'est des beaux textes qui racontent un peu l'histoire de Charlotte, mais il parle au jeu. Donc, pour un peu qu'on...
Mais justement, lui donner une voix.
Exactement, c'est ça qui est important. Puis l'essence même de son livre, c'est de mentionner, on sait qu'elle s'appelle pas Charlotte, en fait. Charlotte, c'est le nom qu'on lui a donné.
Oui, c'est ça.
Le nom que ses parents lui ont donné, on le sait pas encore. Je sais pas si on va le savoir un jour, mais Charlotte, c'est...
C'est lui redonner un petit peu d'identité à travers ce livre.
Oui.
Ton dernier coup de cœur?
Mon dernier coup de cœur, je vous dirais l'affaire Cannon à Québec. Mm. C'est un grand entretien qui va être présenté. C'est présenté en collaboration avec la Fondation Lionel Groulx, avec François Charbonneau, qui va publier un livre aux éditions Boréal sur cette affaire-là, et Éric Bédard. Alors, en fait, l'affaire Cannon, c'est un incident qui s'est déroulé à Québec en août 45. Un médecin new-yorkais, le docteur George Doe Cannon, et sa femme séjournaient au château Frontenac. Ils se sont vus interdire l'accès à la salle à manger parce qu'ils étaient noirs. De là conclure que le Québec de l'après-guerre pratiquait un racisme s'apparentant à celui qui sévissait à la même époque aux États-Unis. C'est un peu, en fait, cette affaire-là que François Charbonneau a analysée. D'où est venue cette exclusion-là de ce couple au château Frontenac? Comment ça a été reçu aussi dans la ville? Qui était en fait ce docteur Cannon-là. Alors, c'est un livre qui est à la croisée de l'enquête et de la biographie. Ce que Charbonneau a ressorti, entre autres, c'est que la plupart des citoyens de Québec supportaient M. Cannon, étaient de son bord, plus que du bord de la ségrégation. Donc, c'est un épisode de l'histoire de la ville de Québec qu'on connaît.
J'avais jamais entendu parler de cet événement-là.
Vraiment, mais qui a fait beaucoup jaser à l'époque. Ça va être un grand entretien, en fait, sur cette affaire-là, sur sa portée aujourd'hui aussi, sur le personnage de Cannon également. Donc, un épisode de l'histoire des Noirs, de l'histoire de la presse aussi, là, qui est méconnue à Québec. Donc, je pense que ça va être bien, bien intéressant.
Très pertinent de remettre cet événement-là dans le contexte de l'époque, contexte politique, social.
Oui, puis aussi de rappeler qu'il y a eu de la ségrégation au Québec aussi.
Oui, c'est facile de juger ce qui se passe ailleurs, mais...
Exactement. Oui. Donc, le vendredi 11 avril à 13h, dans la salle des rendez-vous là, au Centre des congrès.
Super. Donc, comme vous l'aurez constaté, chers auditeurs, la programmation de cette 7e édition des Rendez-vous d'histoire est vraiment diversifiée, dynamique, elle est engagée aussi. Bref, il y en a absolument pour tous les goûts. Myriam, t'es impliquée donc avec les rendez-vous depuis des années déjà, on en a parlé. T'as vu l'évolution de l'événement, ouais. T'as vu l'impact de l'événement sur les conférenciers, les chercheurs, les auteurs, autrices, notamment aussi par ton rôle chez Septentrion. Mm-hmm. Selon toi, grosse question là, pour terminer, quelle est l'importance des rendez-vous d'histoire dans le paysage culturel actuel au Québec?
Les rendez-vous d'histoire de Québec, je crois qu'ils apportent... T'sais, on a le milieu de la recherche au Québec en histoire est vraiment riche. Il y a beaucoup d'événements académiques en histoire.
Oui, beaucoup de petits colloques ici.
Exactement, qui sont très importants. C'est des milieux où les gens peuvent échanger. Quand on regarde un milieu de conférences qui sont hors des milieux académiques, ben il y a beaucoup de sociétés d'histoire aussi au Québec qui sont très vivantes, qui sont très actives. Mm-hmm. La Société historique de Québec en est un exemple, vraiment, oui. Avec les festivals qui présentent maintenant les printemps, Saint-Sauveur, oui, Montcalm, Saint-Roch, je veux dire, waouh! Mm-hmm. Les rendez-vous apportent peut-être un lieu de rassemblement où tout le monde, tous ces gens-là peuvent se rassembler. Je pense aussi qu'on se démarque justement par nos programmations qui sont éclatées, mais très créatives, très ludiques, oui. À certains moments, qui mélangent aussi à la fois les arts, la culture, la littérature et l'histoire, qui se veut aussi toujours très rigoureuse. Pour nous, c'est important d'avoir des conférenciers aussi qui, à la fois, sont des bons vulgarisateurs, mais aussi qui peuvent, tu sais, qui ont des bonnes assises, là, qui ont des bonnes spécialités dans ce qu'ils font. Donc, je pense définitivement qu'on a notre place dans le paysage culturel. Puis un peu comme au niveau de la littérature, Québec en toutes lettres, par exemple, c'est un peu le festival littéraire. Ben, je peux dire que notre ambition, là, c'est justement, tu sais, autant que Québec en toutes lettres, c'est un festival littéraire de la ville de Québec, ben les rendez-vous, pourquoi pas, pourrait devenir le festival, la référence pour l'histoire là, dans la ville de Québec. Donc, si on a des grandes ambitions, là, il me semble que ce serait
Ça me semble vraiment à votre portée, en fait. Là. J'ai l'impression qu'on est très, très proche déjà de cet objectif-là. Parce que, comme tu dis, les programmations sont toujours aussi à la fois rigoureuses, mais accessibles. On n'est pas dans une histoire qui est aride. On n'est pas dans une histoire qui est poussiéreuse.
Puis on collabore aussi. Non, absolument. C'est important pour nous que tout ce soit très accessible. Puis on n'a pas encore parlé, mais dans les années précédentes, les rendez-vous étaient aussi essentiellement gratuits.
Oui, c'est vrai, c'est un très bon point.
Il n'y a pas de membres au rendez-vous d'histoire. Les rendez-vous d'histoire, c'est pour tout le monde. Cette année, on a un petit macaron qui va être en vente au coût de 10 $ Et ce macaron-là nous donne accès à tout le festival.
Et 10 $ là, c'est
10 $ pour, c'est rien, pour 20 vingtaine de conférences. Là. En effet, c'est pas si mal. On y a quand même réfléchi. Là. On voulait pas... pour nous, le caractère gratuit des rendez-vous est important, mais en même temps...
Ça reste accessible quand même, 10 $ c'est pas gratuit, mais ça reste accessible. Puis je vais parler je vais parler à la place de tous les gens qui vont au rendez-vous comme moi. On va tous être heureux de participer aussi au futur des rendez-vous en payant un petit 10 $ de cotisation.
Oui, puis c'est un macaron, donc on se disait en plus, les gens pourront
souvenir.
Le porter, les gens pourront se promener avec. Puis en tout cas, on trouvait ça beau aussi. Là,
sentiment d'appartenance.
Exactement,
quand même.
Exactement. On voulait que les gens puissent porter leur macaron, puis porter les rendez-vous avec eux, en fait, là, dans leur journée, puis au salon, puis que ça fasse jaser peut-être. Là. Puis si jamais ça fonctionne pour d'autres éditions, mais peut-être qu'on aura un macaron différent par chaque année. Puis les gens pourront les collectionner.
Comme le festival d'été, avec des artistes.
Exactement. Donc, il y a cette question-là aussi d'accessibilité qui est très importante pour nous, qui n'est peut-être pas le cas là, pour d'autres événements en histoire, par exemple.
Un dernier mot que tu voudrais peut-être faire sur la programmation?
Oui, bien, si tu me permets, j'aimerais faire un rafale là, de quelques
un
activités.
Rafale. Allons-y.
Je vais y aller en chronologie pour pas trop vous mêler. Mais rapidement, là, je vous mets quelques conférences, tables rondes qui vont avoir lieu. Alors, le mercredi 9 avril, ça va être à la salle de conférence. On a Louise Bienvenue et François-Olivier Doret qui vont venir faire un entretien sur Marie-Claire Davelui. Ensuite de ça, on a à 14h et à 15h30, on a deux conférences sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On a Roger Barrette qui va parler de Charles de Gaulle et Frédéric Smith qui vient juste de sortir un livre sur des Québécois en Normandie aux éditions Boréal. Et on a la romancière Josée Ouimet qui va faire une conférence sur le travail des calculatrices de Montréal. Calculatrices, non l'objet, mais vraiment des femmes, en fait, là, qui ont contribué à leur manière là, à l'industrie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si on va vers le jeudi, on a Caroline Fortin, qui est la directrice du magazine Continuité, qui va nous présenter une conférence à la salle encore sur l'histoire des bibliothèques au Québec.
Vraiment intéressant.
Ensuite de ça, on a André Martineau, qui travaille là, pour Radio-Canada, entre autres, qui est bien actif justement au niveau de la radio, la vulgarisation d'histoire, qui va nous raconter l'histoire d'une expédition canadienne médicale qui a eu lieu à l'île de Pâques en 1964.
Ça a l'air vraiment mystérieux.
La conférence s'appelle « La mystérieuse bactérie de l'île de Pâques ». C'est vraiment là, un petit épisode de l'histoire bien méconnu, mais bon, c'est certain que ça va être fascinant. Donc, à 16h30, le jeudi. Et on termine le jeudi soir avec une conférence à la chapelle des Ursulines. C'est Mélanie Lafrance qui est archiviste là-bas, qui a fait son doctorat à l'Université Laval, notamment sur l'enseignement des sciences par les Ursulines. Elle va publier son livre aux éditions Septentrion au début du mois d'avril. Donc, elle va nous faire une conférence sur l'enseignement des sciences aux Ursulines.
Génial.
Peut-être qu'il va y avoir là, des objets de collection s'ils sont en mesure de nous les présenter. Eux, ils vont avoir une exposition qui va être fraîchement inauguré à ce moment-là. Donc, ça va être un rendez-vous. Et je termine avec le vendredi. On a Émy Dion, qui est étudiante à l'Université Laval, qui va nous présenter son mémoire « Affiches de guerre, guerre d'affiches 1914-1918 » en matinée.
Qui va être publié aussi, je pense,
auprès de l'Université Laval. Oui. On va recevoir aussi Mélissa Blais, qui est professeure en sociologie à l'Université du Québec en Outaouais, je crois. Elle est à Ottawa. Elle va nous parler de Polytechnique, en fait, et de la mémoire de Polytechnique aujourd'hui. Donc, sa conférence va être à 15h30, la mémoire comme champ de bataille, le 6 décembre 1989 et ses suites. C'est tiré d'un livre qui a été publié chez Remue Ménage. Et enfin, un entretien avec Éric Wenzel et Marie-Ève Ouellette. En fait, Éric Wenzel a publié un livre aux éditions Septentrion sur Louis-Guillaume Verrier. C'est il a été officier, en fait, procureur général en Nouvelle-France. Donc, pour les amateurs d'histoire de la Nouvelle-France, c'est vrai qu'on en a peut-être un peu moins dans cette programmation-ci. Je vous invite à cet entretien. Puis ça va être suivi d'une conférence d'Éric Thierry sur l'arrivée des Jésuites à Québec il y a 400 ans. Donc, ça va clôturer aussi là, la 7e édition des rendez-vous.
On rappelle le site Internet pour avoir la programmation?
Oui, c'est le rvhqc.com.
Ou sinon, page Facebook également. Donc, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Merci, Myriam, d'avoir été des nôtres. Et on rappelle que les rendez-vous d'Histoire de Québec se déroulent du 9 au 11 avril pendant donc, le Salon du Livre de Québec. Donc, allez au Salon du Livre, achetez des livres, allez voir des conférences, tout ça en même temps. C'est donc un événement à ne pas manquer. Si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion sur le site de Chiz, ainsi que sur les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour terminer, on se quitte sur une dernière pièce musicale, Sentiment Nouveau, du groupe Le Couleur. C'était Rachel Archambault à l'animation, en compagnie de Myriam Lévesque. Bonne soirée à tous!
Jenny.